Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et bienvenue dans Radio Foot International, une journée un peu spéciale pour les radios et la radio en général, pour Radio Foot aussi, puisque aujourd'hui, eh bien, c'est une journée dédiée à la radio, la journée mondiale de la radio plus précisément, et la radio et le sport sont le thème envisagé cette année pour illustrer ce média. Et nous avons une invitée dans notre studio aujourd'hui, invitée et auditrice fidèle de Radio Foot International, Mirta Lorenzo, bonjour.
Bonjour, et bonjour aux auditeurs. En effet, aujourd'hui, je me trouve de l'autre côté, mais tous les jours, j'écoute l'émission.
Bon, ça vous fait pas peur d'être dans Radio Foot International aujourd'hui ?
Non, je me sens entre amis.
Bon, en plus, vous êtes argentine, alors en Argentine, les femmes sont beaucoup plus sensibles au thème du football, n'est-ce pas ?
Absolument. Si on ne s'y connaît pas en football, on est un peu handicapé social.
Bon. Donc, actuellement, vous êtes chef du secteur média à l'UNESCO, coordonnatrice de cette journée mondiale de la radio. Et nous évoquerons non seulement l'actualité footballistique actuelle du jour, en tout cas, parce que nous sommes à la veille de matchs très importants de Ligue des Champions. Et puis nous évoquerons aussi la radio, et non seulement le sport, mais la radio et le football, puisque finalement ça peut aller aussi très bien ensemble, et notamment à travers le commentaire. Nous évoquerons les commentaires et les commentateurs, parce que c'est quelque chose de très intéressant. Nous évoquerons aussi aujourd'hui dans l'émission évidemment cette veillée d'armes en veille de match, le choc Real Madrid-PSG, donc, qui aura lieu demain à Santiago Bernabéu en terre espagnole. Comment nos confrères madrilènes attendent-ils ce huitième de finale de Ligue des Champions, et comment l'attendent les supporters merengués ? Y a-t-il des doutes dans l'air, ou au contraire un excès de confiance pour les doubles champions d'Europe ? L'autre rencontre de la soirée de mercredi opposera des Dragons et des Reds. Le FC Porto recevra Liverpool, un match qui pourrait faire des flammes, même si l'équipe portugaise n'a jamais réussi face au club du nord de l'Angleterre. Invité dans ce studio pour évoquer les thèmes du jour avec Mirta Lorenzo, eh bien nous avons Philippe Doucet de Canal+. Bonjour Philippe.
Bonjour Madame Annie.
Ça y est, vous êtes rentré d'Afrique. On vous a rendu à Paris et aux Parisiens.
Il y a toujours un jour où il faut rentrer.
Malheureusement, on peut repartir aussi. Étienne Moati, bonjour.
Bonjour, moi je ne suis pas parti, je suis toujours là.
Bon, mais c'est bien d'être fidèle aussi. Étienne Moati de l'équipe, et puis Nabil Djellit.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Archi-fidèle, Nabil Djellit, lui, il part jamais.
Archi-fidèle, je ne sais pas si c'est ce qui me qualifie le plus, mais bon.
Bon, à Radio Foot, si, en tout cas. Et puis Alejandro Valente, le chef du service des sports, qui est là aussi. Bonjour Alejandro.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Radio Foot, c'est parti.
Bien, je ne sais pas si nous sommes à l'antenne. Je n'en ai pas la moindre idée.
Un petit clin d'œil, nous sommes bien à l'antenne, c'était les 11 Zitrones qui se demandaient il y a un temps bien ancien où s'il se trouvait bien à l'antenne, donc à une époque où la technique, on va dire, était beaucoup plus traître que maintenant. Cette petite musique, vous la connaissez tous. Nous comptons les jours et ils comptent, eux, sûrement les heures qui les séparent du refrain de la Ligue des Champions et du coup d'envoi pour en découdre, évidemment, balle au pied. Madrilène contre Parisien. Sans doute aiment-ils cette pression, sans doute est-ce un moteur quand il s'agit d'une rencontre dont l'enjeu les concerne et même les dépasse. Peut-être plus d'ailleurs que pour d'autres clubs qui sont qualifiés en huitième de finale. Et là, on se dit malheur au vaincu. Le PSG tente depuis plusieurs saisons de réaliser l'objectif fixé par les propriétaires qatariens, gagner la coupe et ne pas s'arrêter donc en huitième de finale. Alors que, évidemment, pour les Madrilènes, s'arrêter en huitième de finale serait une catastrophe. Et d'ailleurs, on se demande, que pensent les Madrilènes, que pensent nos confrères de Madrid de cette perspective et de cette finale avant l'heure ? Pierre Chaperon, vous êtes le correspondant d'RFI à Madrid, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous, bienvenue à Madrid.
On vous entend super bien, tout à l'heure je parlais de technique, on vous entend très très bien Pierre.
Alors Pierre, j'étais doté d'un appareil nouvelle génération, je ne connaissais pas.
Effectivement, ça change tout. Pierre, vous qui êtes donc un homme de notre temps avec de la technique qu'il faut, dites-nous comment la presse madrilène voit ce huitième de finale, ce Real PSG, et voir les chances évidemment des madrilènes ou pas.
On y croit, oui. En Espagne, et les journalistes, la presse madrilène, elle y croit vraiment face au Paris Saint-Germain. On croit à un sursaut, bien évidemment, du Real Madrid. Après une saison, un début de saison plutôt difficile, on voit des points positifs dans les dernières sorties du Real Madrid, que ce soit du côté de Valence ou encore ce week-end samedi contre la Real Sociedad.
On a des doutes et on voyait des doutes aussi dans la presse espagnole à cause des mauvais résultats quand même depuis le début de saison. Ils leur font confiance.
Oui, ils leur font confiance. Beaucoup de confrères ici en Espagne pensent que tout va se jouer sur la défense du Real Madrid et sur la forme de Cristiano Ronaldo. Ça sera les deux points les plus importants. Si les deux marchent très bien, eh bien le Real a de fortes chances, pour la presse madrilène, de passer.
Et que disent les supporters alors, si tant est que les supporters du Real disent différemment de la presse de Madrid?
Les supporters madrilènes, ils ont qu'une conviction, c'est que le Real va passer.
Pas de doute. L'homme de la rue, aucun doute.
Aucun doute.
Ça fait rire hein, dans notre studio.
Samedi soir, je faisais un reportage pour RFI. J'étais assez impressionné par les supporters madrilènes qui y croyaient dur comme fer. C'est la Champions. Ils y croient vraiment sans problème. Le Paris Saint-Germain, de toute façon, ça sera une étape vers la 13e Ligue des Champions.
Oui, ils y sont déjà. Une dernière question alors, Pierre. Est-ce que toute l'Espagne est derrière le Real de Madrid à cette heure-là, quand il s'agit d'un match aussi important?
Je crois qu'il y a une petite partie de l'Espagne au nord-est qui n'est pas forcément d'accord avec ça. Ça dépend en fait des régions. Celles qui sont pro-madrilènes, bien évidemment, croient dur comme fer que
Mais est-ce que c'est le club le plus populaire d'Espagne, le Real?
C'est l'un des clubs les plus populaires, oui, avec Vincent,
bah oui,
se partage.
Ça,
de toute
sûr,
façon,
mais...
toutes les régions ont, si vous voulez, par exemple, si on est dans un département, on aime son club du département, et après on choisit entre le Real et le Barça. Par exemple, en Galice, par exemple pour le Celta Vigo, mais à côté, on regarde avec attention les résultats des deux gros clubs espagnols.
Merci beaucoup Pierre pour ce témoignage donc, et déjà cette ambiance, ça nous donne le là des débats qui vont suivre. Merci beaucoup et bon match alors, puisque vous serez aux côtés d'Eric Mamrut. Zinedine Zidane, ce matin, il a parlé, il s'est exprimé en conférence de presse. Alors on va pas s'arrêter encore aujourd'hui sur la tactique qu'auront choisi les entraîneurs pour le match de demain, mais on va quand même écouter Zinedine Zidane. Est-il très zen lui quand il se prépare? Est-ce qu'il écoute tout ce qu'on dit autour de lui? Zinedine Zidane.
On ne changera pas ce que peuvent commenter les gens. Moi, ce que je fais, c'est que je travaille. Ce qu'on veut faire, nous, c'est essayer de penser au match, à faire un bon match de foot, parce que c'est ce qui m'intéresse, et pas tout ce qui peut se dire autour. Et puis après, pour le fait de jouer contre Paris Saint-Germain, étant Marseillais, forcément, ça... il y a une rivalité qui a toujours été là. Mais par rapport à ça, il n'y a rien. Là, c'est Madrid-Paris Saint-Germain. Et je vais pas penser à ça. Je me dis juste que ce serait un beau match de football, avec une équipe en face qui sera certainement très forte, qui nous mettra certainement en difficulté. Et nous, essayer de faire un grand match aussi.
Zinedine Zidane, l'entraîneur des Merengues. Etienne Moati, quand il dit « je m'en soucie pas de ce qu'on dit autour de moi », il est sincère?
Plutôt oui pour moi, même si Nabil en face de moi secoue la tête d'un non prononcé. Moi, je pense que Zidane...
Vous êtes bien parce que vous faites le commentaire radio, bien sûr. Hein. On n'a pas l'image.
Zidane, il a l'habitude de la pression. Il l'a eu comme joueur de manière extrêmement importante. Et il l'a comme entraîneur puisqu'il est au Real depuis un moment maintenant. Et que finalement, il réussit plutôt bien dans cette pression-là. De toute façon, Zidane, je crois qu'il se dit aujourd'hui que ces deux matchs-là contre le Paris Saint-Germain... peut-être ils sont un tout petit peu moins importants pour moi pour le Real qu'ils le sont pour le Paris Saint-Germain. Parce que le Real, finalement, il est sur une mauvaise saison. Il peut considérer qu'il est sur une fin de cycle et qu'il y aura de la rénovation, il y aura des recrues donc au mercato d'été. Pour le Paris Saint-Germain, ça me semble être plus compliqué parce qu'ils ont fait ces achats-là donc l'été dernier pour 400 millions d'euros entre Mbappé et Neymar. Donc c'est plus compliqué pour
donc
eux
si jamais ils perdent.
Si jamais le Paris perd sur ce huitième de finale-là, ils seront dans une vraie impasse. Alors, est-ce que Zidane sera encore entraîneur du Real si jamais il est éliminé par le Paris Saint-Germain? C'est une autre question. Mais même ça, vu la cote qu'a aujourd'hui Zidane au Real, ça me paraît une possibilité.
Nabil, alors vous qui disiez du chef.
Non, c'est nuancé. C'est-à-dire que la pression, ça puisse glisser sur lui, ça je veux bien y croire. Quand on prend un ballon en finale de la Coupe du Monde pour un pénalty et qu'on met une Panenka, à mon avis, la pression, c'est une notion toute relative pour un tel
phénomène.
Individu. Mais on ne peut pas occulter ce qui se passe à l'extérieur. Jamais un match, en tout cas depuis très longtemps, n'a été autant parasité par des faits extérieurs. On parle presque plus de ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce que Neymar va changer de club? Est-ce que Zidane va rester? Est-ce que Benzema est cuit? Quel milieu de terrain au Paris Saint-Germain? Finalement, plus que sur le terrain, la tactique. Oui. Donc, je pense quand même que Zidane, tout Zidane qui est, il est quand même alerte. Il dort pas.
C'est un habile, c'est un peu la routine de ces matchs-là. C'est-à-dire qu'il y a une pression autour, qu'on les commande beaucoup, qu'on se pose des questions sur savoir qui va rester, si l'entraîneur va se faire virer.
Non, mais
je crois que c'est un peu la routine pour un club comme le Real Madrid. Ça l'a un petit peu moins pour un club comme le Paris Saint-Germain, mais au Real, c'est
comment ça? Mais la saison du Real fait que ce match prend une toute autre dramaturgie. D'ailleurs, j'écoutais le préalable et l'exergue de cette émission. C'était, on en parle. Moi, je n'ai pas l'impression que c'est un huitième de finale.
En fait. Oui.
J'ai l'impression qu'on parle d'une finale.
Beaucoup de gens ont la sensation. Philippe aussi, vous l'avez?
Oui, parce que c'est tout le problème du PSG qui est dans
ça une dépasse l'enjeu sportif.
C'est pas ça, c'est que le PSG est dans une communication étrange qui ne correspond très étrange, c'est-à-dire que chaque match de ce niveau-là tout de même, c'est on a l'impression que c'est une finale de Coupe d'Europe, c'est-à-dire ils risquent de se réveiller le lendemain matin de la qualification contre le Real en se disant ah, tiens, c'est embêtant parce qu'il reste encore 5-6 équipes très très fortes en quart de finale. Bah oui, évidemment, comme tous les ans.
Donc oui, c'est toujours ce discours, c'est pas être en finale.
Bah non, évidemment que non, et c'est toujours ce même discours de il faut aller en finale. Or, si vous tombez en huitième contre le Barça ou contre le Real, fait deux années de suite, ça peut arriver de perdre, évidemment que ça peut arriver. Ouais. Ce serait même quelque part que dans l'ordre des choses. Donc, c'est étrange cette manière de présenter les choses comme si le PSG allait disparaître s'il perdait avant les demi-finales. Non. Dans le football, il faut être football, quoi. Il faut respecter un peu le jeu, quoi.
Je suis pas complètement d'accord quand même avec cette analyse parce que j'ai commencé à le dire tout à l'heure. Pour le Paris Saint-Germain, évidemment, c'est presque comme une finale parce que si vous êtes sorti une deuxième fois en huitième de finale de Ligue des Champions, comme je viens de le dire tout à l'heure, vous avez investi 400 millions d'euros, que vous avez pris l'un des meilleurs joueurs du monde avec Neymar, celui qu'il sera donc dans l'avenir quand Messi et Ronaldo auront arrêté. Qu'est-ce que vous faites derrière? C'est quoi vos perspectives quand vous avez le meilleur actionnaire du
2022.
Monde 2022. Ouais, 2022, c'est un petit peu loin. Donc forcément, c'est une vraie complication et qu'il y a un vrai enjeu. Presque, c'est maintenant ou c'est jamais un peu pour le Paris Saint-Germain.
Ouais, mais on peut pas faire de la Ligue des Champions un objectif unique. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, pour le Paris Saint-Germain,
Made in Qatar, ça peut pas être la Ligue 1 qui soit l'objectif d'une saison. Oui.
Ni la Coupe de la Ligue.
Ils l'ont tellement oublié qu'ils n'ont pas été champions l'année dernière, d'ailleurs.
Alejandro, qui a le plus la pression, finalement, de ces deux équipes?
Je pense que les deux ont une énorme pression, contrairement à ce que dit Étienne, qui pense que c'est un peu moins sur le Real. Quand même, la perspective de disparaître du monde au début du mois de mars est quelque chose d'insupportable pour les gens du Real Madrid aujourd'hui. On assiste à une mobilisation dans le bon sens de tout ce qui entoure le club. Mais depuis quelques semaines, on s'interroge beaucoup sur le discours de Zinedine Zidane, sur sa façon de minimiser tous les problèmes qu'a rencontré le club depuis le début de la saison. Aujourd'hui, tout le monde tient le même discours, mais à mon avis, si les choses ne se passent pas comme il l'entend, ça va être très très compliqué. La saison au Real.
Je suis d'accord avec ça. Maintenant, c'est des drames ou des drames. Et je pense que le drame qui aurait lieu au Paris Saint-Germain serait encore plus grand que celui qui aurait lieu au Real. Tout simplement, comme je l'ai dit, parce qu'ils ont investi terriblement, donc ils n'ont pas de solution immédiate. Au Real Madrid, évidemment, si vous êtes éliminé, vous êtes sur une fin de cycle, peut-être vous pouvez faire venir de nouveaux joueurs, ce que le Paris Saint-Germain ne peut plus faire, d'abord d'un point de vue financier, parce qu'ils n'ont plus les moyens, et d'un point de vue sportif, parce qu'ils ont déjà signé les meilleurs joueurs du monde.
Neymar et Mbappé ont signé 5 ans, je vous rappelle.
Mais on
ne construit pas un football pour un club, pour une équipe pour un an. Pardon,
je pense que les Espagnols vont le manger tout cru. C'est question de tempérament.
Ah ouais. Mais vous pensez que nous, alors moi je suis pas supporter, mais vous pensez que les joueurs du Paris Saint-Germain, notamment ils ont pris des garçons comme Daniel Alves, qui ont du caractère, vous pensez que ces gens-là qui sont habitués à jouer ce genre de match, parce que c'est aussi des joueurs chevronnés du côté du Paris Saint-Germain, vous pensez qu'ils ne vont pas avoir le répondant suffisant?
Les joueurs, oui, c'est l'entraîneur je me réfère.
L'entraîneur de Paris Saint-Germain est espagnol, contrairement à l'entraîneur du Real Madrid.
Donc ça nous laisse une chance.
Il n'a pas la cote en Espagne, hein. Pas du tout.
Pour rebondir sur ce que dit Étienne, parce que moi je le rejoins quand même en grande partie, parce que le Real, ok, il n'y a pas de saison de transition, c'est soit une saison ratée, soit une saison réussie, mais Zidane, il peut difficilement mieux faire que ce qu'il a fait déjà. Eux, ils pourront très facilement justifier une élimination, même si c'est dès le mois de mars. Attendez, on vient de faire 2 Ligues des Champions successives. Quel club dans l'histoire du football l'a fait ?
Ça marche pas comme
aucun.
Ça.
Aucun. Oui,
le haut niveau, c'est tous les ans. Hein.
Ouais, d'accord. Je suis d'accord avec toi. On peut avoir la mémoire courte, mais en termes de politique, c'est plus facile à justifier. Quand
vous imaginez les supporters du Real Madrid obligés de rester pendant 3 mois à regarder jouer le Barça.
Ils resteront pendant 3 mois. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Ils resteront pendant 3 mois. C'est pas des supporters italiens.
Eux, ils participent à la Coupe du Monde.
Voilà, exactement.
En tout cas, les enjeux sont évidemment énormes et on se demandera demain aussi quels seront les tactiques, notamment des deux entraîneurs. Mais on n'a pas forcément beaucoup de facilité à regarder deux écrans en même temps. Pourtant, demain, il y aura deux matchs en même temps. Et l'autre match ne manque pas d'intérêt parce qu'il promet aussi du spectacle. À Porto, le FC Porto qui reçoit Liverpool. Et en 4 rencontres européennes, les Reds sont devenus la bête noire des dragons. En effet, ils n'ont jamais gagné face à Liverpool. Est-ce que ça serait peut-être l'heure enfin de cette équipe portugaise? Nabil, qui mène le championnat portugais pratiquement depuis le début de saison, qui a un bon entraîneur. Alors Aboubakar, on ne sait pas encore s'il sera là pour marquer des buts ou pas.
Là,
oui, mais là, il y a des rumeurs dans Abo là, ce matin, qui disait qu'il reviendrait peut-être demain. Alors il jouera peut-être pas tout le match.
À mon avis, il sera sur le
terrain. C'est un peu tactique, oui. Est-ce que c'est l'heure de Porto?
Porto, c'est toujours une équipe que je trouve sous-estimée à l'échelle européenne, qui a pourtant quelques ligues de champions dans son armoire. C'est une équipe qui a été remobilisée, vous avez raison de parler de Sergio Conceição, qui a notamment remobilisé des garçons comme Aboubakar, qui n'était pas certain de rester. Et il a surtout constitué une équipe solide, avec de la grinta et de l'abnégation, avec un trio africain pour le coup de feu. Yassine Brahimi à gauche, l'international algérien, Vincent Aboubakar, l'international camerounais en pointe, et peut-être la révélation de la saison du côté du Portugal, un garçon originaire des Ulysses comme Martial, comme Henri, comme d'autres, Marega, le Malien, qui est tout simplement fantastique depuis le début de saison. Et là où c'est hyper excitant et intéressant, c'est que c'est aussi une équipe spectaculaire en face, avec Liverpool, dont on connaît un peu les déficiences entre guillemets défensives, mais avec une attaque tout bonnement fantastique, mais qui évoluera pour la première fois en Ligue des Champions sans Coutinho, ça c'est important aussi à dire. Mais d'un côté, le Messi égyptien Salah, Mané, Firmino. Donc pour moi c'est du 50-50. Moi j'avais fait Aboubakar en interview il y a à peu près un mois de ça. Alors je vais rien vous dévoiler d'extraordinaire. On en a évidemment parlé. Alors je sais pas, à ce moment-là il était focus sur le match. Mais pour lui, et je crois qu'il a raison, c'est une affiche qui est absolument équilibrée.
Alejandro. Je pense que c'est du chef, justement.
Oui, c'est équilibré sur le papier, mais il y a un déséquilibre, c'est que le match retour va se jouer en field. Et on connaît la pression qu'on ressent quand on va dans ce stade mythique. Et je pense que ça constitue un avantage assez conséquent en faveur de Liverpool, qui, contrairement à d'autres clubs anglais, a un programme plutôt mesuré dans cette période de match aller-retour.
Oui, en field, même si on connaît l'ambiance du stade des Dragons, et ça de Porto, qu'il a aussi est une ambiance extrêmement chaude, surtout les soirs de Ligue des Champions. On continue à en parler avec vous, Philippe Doucet et Étienne Moati, de ce match dans la deuxième partie de Radio Foot International. Et puis on parlera donc de la radio et du sport, de la radio et du football et des commentaires de football à la radio. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Retour dans Radio Foot International dans la deuxième partie de notre émission avec Philippe Doucet, Étienne Moati, Nabil Djellit.
Presque c'est ça.
Oui, pardon.
Il y a un très bon joueur espagnol, Naïm, qui a marqué en finale d'une Ligue Europa avec...
1995, exactement.
Alors que toi, le dernier but que tu as mis, c'était il y a longtemps quand même. Hein.
C'est vrai,
ça dépend où il en marque.
Arsenal-Saragosse, Naïm.
Alejandro Valente, donc vous l'avez entendu, qui est dans ce studio. Et puis Mirta Lorenzo, qui est de l'UNESCO et avec qui nous parlerons de radio et de football. On en était à ce match qui va se dérouler demain soir. On vous a pas entendu, Étienne Moati, par exemple. On sait que le Liverpool, par contre, on parlait de Porto. Liverpool est quand même dans une grande forme. L'équipe ne cesse finalement, avec des fois ces limites dont on parle dans Radio Foot, mais en tout cas ils ne sont plus qu'à 2 points de Manchester United et ils rêvent d'une au moins 2e place en Premier League. Est-ce que les Dragons, qui ne les ont jamais battus, pourraient les battre demain?
Ce que je trouve formidable avec ce match-là, c'est qu'on puisse se dire que c'est du 50-50, et je suis assez d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à maintenant là-dessus, parce que quand on regarde les effectifs des deux équipes, il y a quand même un effectif qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important à Liverpool, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche à Liverpool, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de moyens à Liverpool, et c'est du 50-50. Et ceux qui ont gagné des Ligues des Champions, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est encore Porto. C'est une équipe et un club qui a un mérite extraordinaire d'en être où ils sont, avec les moyens qu'ils ont. Quand on voit comment se travaillent ces clubs-là, on voit les joueurs qui sont passés par le championnat de France, qui aujourd'hui sont des joueurs extrêmement importants dans ce club-là, il y a un vrai mérite de club, d'entraîneur et de joueur.
Voilà, et tous ceux que eux découvrent et qu'ils font rentrer aussi, hein, notamment c'est la porte d'entrée d'Amérique du Sud pour beaucoup de Brésiliens, le club de Porto. Philippe ?
Moi, j'ai quelques interrogations sur les Anglais qui ont été finalement les dominateurs du premier tour. On l'oublie un peu parce qu'on parle que du Real, du Barça, etc. Mais les Anglais ont...
5 clubs sur 5 qualifiés
et je crois 4 sur 5 étaient premiers de leur groupe. Je crois qu'il n'y a que Chelsea qui a fini deuxième. Donc, ils ont fait un premier tour très spectaculaire et très étonnant. Un retour au pouvoir, en quelque sorte, pour les Anglais, ce qui, ces dernières années, depuis la fin des années 2000, qui était l'apogée de leur domination, ils avaient un peu régressé. J'attends de voir quand même, parce que j'ai vu dernièrement des matchs d'équipes fatiguées, des équipes qui ont survécu forcément un peu difficilement aux fameuses fêtes de Noël,
au Boxing Day,
etc., qui sont toujours traditionnellement assez difficiles. Ils viennent d'enchaîner énormément de matchs. Pareil. J'attends de voir un petit peu ce qui... Je parle pour l'ensemble, hein, mais ça peut s'appliquer à Liverpool, qui serait un favori logique, normalement, du match contre Porto, et c'est pas si évident que ça, effectivement.
Tout à l'heure, vous parliez de Mohamed Salah. Nabil, c'est évidemment une des
lui,
flèches.
Il est pas fatigué, lui.
Voilà, une des flèches sur lesquelles peuvent s'appuyer ces Reds, en tout cas.
Oui, c'est l'attraction, puisque là, il survole la première ligue avec Liverpool. Il est même en lice, certainement, pour être le meilleur joueur de la saison avec De Bruyne et Harry Kane. Mais être un top player, Annie, c'est aussi briller en Ligue des Champions. S'il veut être dans les 30 nommés au Ballon d'Or, bon, il sera certainement, parce que il est quand même fantastique. Mais être le plus haut possible dans le classement, ça passe aussi par la Ligue des Champions pour l'Égyptien. Après, je rejoins quand même Philippe sur ce qu'il a dit, parce que tous les week-ends, c'est un peu la guerre en première ligue. Hein. Quand tu joues contre Tottenham, tu laisses un influx incroyable. Alors, je veux pas réduire le championnat du Portugal à un championnat moyen, mais je pense que c'est un championnat à plusieurs vitesses. Vous avez des gros matchs face au Sporting et au FC Porto, mais vous pouvez aussi vous reposer, entre guillemets, face à des équipes qui seraient peut-être en deuxième division en Angleterre. Quand tu joues Arouca ou Passos Ferreira, c'est pas la même intensité, je suis désolé, que quand tu joues Tottenham ou Everton. Quoi.
Alejandro ?
Oui, je suis conscient de toutes ces réserves, mais je pense que quand même du côté de Liverpool, on a une attente également très importante pour cette Ligue des Champions. Oui. C'est un club
il la
qui
joue
veut,
pas souvent.
Voilà,
il la
gagne souvent, par contre. Qui veut renouer avec un passé qui a été très important. Et je pense que c'est sûr que Porto n'était pas les clients les plus faciles, mais ils peuvent pas trop se plaindre de ce tirage. Et je pense qu'ils ont une belle carte à jouer.
Oui, mais Nabil a commencé à l'évoquer tout à l'heure. C'est quand même assez rare qu'un club de la dimension de Liverpool, avec les moyens des clubs anglais, au mercato d'hiver, vende son meilleur joueur quand vous êtes encore qualifié en Ligue des Champions.
Ils n'avaient pas le choix, mais ils se sont renforcés en défense. Enfin, ils ont.
On verra.
Ils ont quand même fait des choix.
Entre les deux, entre leur renfort en défense et leur perte en attaque, je pense qu'ils ont plus perdu qu'ils ont gagné.
Parce que Coutinho, tout le monde le connaît. Van Dijk. un peu moins, 75 millions d'euros, parce que c'est dans le marché anglais. S'il passait de Saint-Etienne au Milan AC, c'était un transfert à 30, hein, pas plus.
En tout cas, il faudra voir si Porto est capable de trouver l'intensité justement de ces grands rendez-vous, alors qu'il a l'habitude d'un championnat qui est peut-être un peu moins excitant.
Et puis, oui, mais on dit ça des clubs.
On dit ça du PSG aussi.
Exactement, on dit du PSG que finalement c'est un handicap qu'il n'ait pas d'autres clubs, donc pour pouvoir rivaliser dans son propre championnat avec ce handicap en Coupe d'Europe, donc ça peut pas marcher dans tous les sens non plus.
Et hein. Après les clubs portugais, ça révèle des joueurs, c'est un club vitrine de joueurs, mais c'est aussi un club vitrine d'entraîneurs, Mourinho, Villas-Boas par le passé, et Sergio Conceição qui a peut-être aussi la possibilité d'entrer dans une autre catégorie, dans une autre dimension, parce que quand vous commencez à toucher le top 8 européen, voire le top 4, eh ben les clubs qui vous chassent, c'est plus Nantes, hein.
Oui, c'est vrai qu'il a.
Sans manquer de respect.
Ça, c'est pas très sympa, ça.
Non, mais c'est la vérité aussi.
C'est un coup bas.
Non, mais c'est pas un coup bas.
On va répéter ça à Kita, monsieur.
Et à Guillaume Ploquin, là, supporter des Canaries en régie, là. Il va vous couper le micro.
Non, mais c'est pas manquer de respect, je veux dire. Il y a un moment, c'est juste des catégories.
Non, mais ils l'ont regretté, d'ailleurs. Ils l'ont vu partir à regret. Myrta Lorenzo, vous allez regarder les deux matchs en même temps. Vous avez choisi votre match. Vous pensez que c'est 50-50?
C'est difficile choix parce que une partie de ma famille est portugaise, donc ça va être difficile.
Mais Porto, votre famille, ou parce que là-bas ils sont très.
Ma famille, elle est divisée entre Benfica et Sporting.
Ah, alors là, non.
Donc pas Porto, ouais. Mais bon, il y a un élément, un élément à tenir compte, c'est les ventes du Porto et l'effet sur les Liverpool.
Sur les supporters, peut-être plus que sur les joueurs, quand même.
Ouais. Autour du stade, ça.
Ouais. Ça promet une chaude ambiance. En tout cas, eh bien voilà, c'est pour ce qui est de la Ligue des Champions. Et nous reviendrons bien sûr aussi demain dans Radio Foot, notamment des matchs qui auront déjà été joués. Pour l'instant, nous allons évoquer eh bien ce thème qui est la journée mondiale de la radio.
Émission spéciale, journée mondiale de la radio.
7 minutes et 30 secondes de jeu dans cette première prolongation est toujours 0-0 entre l'Égypte et le Cameroun.
Goal! 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 Goal, carajo, goal! Goal de la puta! Goal de Messi!
Il y a un pied marocain qui a intercepté le ballon. Les Marocains qui en deux temps se dégagent et qui vous peuvent relancer par Nesyri. Oh, en direction d'Al Youi.
Attention, il la met! Il la met!
Attention, Violo qui va tirer, tire et marque.
De Gogo phénoménal.
La frappe terrible. Le coup de canon. Le coup de fusil, pied gauche, lucarne. Signé Dimitri Payet, 89e minute. Merci, au revoir.
Voilà, il y a des commentateurs que vous avez peut-être reconnus, chers amis. J'ai vu Myrta Lorenzo sourire, parce que évidemment, oui. On avait glissé un petit commentaire argentin pour Alejandro et pour vous.
Je l'ai reconnu tout de suite, même avant qu'il dise.
C'est son nom?
Ah non, le nom du rapporteur, non, mais j'ai reconnu tout de suite que ça venait de l'Argentine.
Alejandro?
Ah ben, je sais pas.
Il m'a soufflé, Alejandro. José María.
José María Muñoz.
Muñoz. Ah.
Bien sûr.
En tout cas, aujourd'hui, c'est donc cette journée mondiale de la radio et le thème radio et sport. Donc à Radio Foot, on avait choisi délibérément d'évoquer et de lier radio et football. D'abord, messieurs ou madame, j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez un souvenir d'un match à la radio? Un souvenir indélébile, peut-être d'enfance, souvent ça se réfère à l'enfance, mais d'un match que vous avez entendu à la radio?
Oui, bon, dans mon cas, c'est la Coupe mondiale de football en Argentine, quand Maradona a touché la balle avec sa main, le ballon avec sa main.
1986.
Exactement. Mais il y a plein de souvenirs de football. Mes souvenirs d'enfance de dimanche, ce sont des souvenirs de football.
Et de football à la radio?
À la radio, à la télé, les voisins, dans la rue, partout, tout le monde écoute le football. Je pense que pour Alejandro, peut-être aussi.
Oui.
Je pense que c'est général en Amérique latine, non, Alejandro? Oui. Au Chili,
voir les familles se promener dans les parcs les dimanches avec le monsieur, la radio collée à l'oreille.
Tout à fait.
peu intéressé par les enfants ou par ce qui s'est passé autour.
Il faut souligner aussi les liens étroits avec la radio, parce que souvenez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui vont au stade regarder les matchs, mais écoutent la radio en même temps parce que leur commentateur sportif favori est à la radio. Donc, c'est étroitement lié, football et radio.
Ça existe aussi en France. Ouais. Nabil.
Moi, j'ai deux souvenirs très précis. Quand j'étais gamin, on jouait au foot le samedi soir assez tard, jusqu'à ce que tombe la nuit. On avait un transistor à côté de nous pour avoir le multiplex en même temps et entendre les résultats de la Ligue 1 française ou de la première division. Comme
championnat
on
de première division, comme on
donc
disait.
On s'arrêtait dès qu'on entendait but à Paris ou un truc comme ça, on allait écouter. Enfin, ça. Et puis surtout un autre, pour des raisons, bah voilà, un peu de diffusion, parce que bon, bah, moi je suis d'origine algérienne et avec mon papa, dès gamins, bah, on a suivi la sélection algérienne et donc du coup elle n'était pas forcément diffusée à la télé et donc on avait suivi ensemble le match d'ouverture de la CAN 1990 à Alger entre l'Algérie et le Nigeria. L'Algérie avait gagné 5-1 et pour moi ça reste un souvenir inoubliable et j'ai pu le vivre grâce à la radio parce que sinon c'était complètement impossible.
Philippe ?
Ouais, moi je suis d'une génération où les matchs à la radio étaient la norme. C'est-à-dire qu'on écoutait la plupart des matchs à la radio. En France, on voyait les équipes en Coupe d'Europe, en général, à partir des quarts de finale. Parfois des huitièmes quand tout le monde était éliminé, ce qui arrivait souvent. Il restait un club, Saint-Etienne, par exemple. Donc on voyait le huitième de finale à la télé, mais comme ça, épisodiquement, peut-être le match aller, puis pas le match retour. Et tout le reste, c'était à la radio. Donc les multiplex de Pierre Loctin, Jacques Vendroux sur France Inter à l'époque.
Un match particulièrement,
c'est notre quotidien. Non, alors je vais faire un aparté. Moi, ce qui va peut-être vous surprendre davantage, c'est que j'écoutais carrément Wimbledon toute l'après-midi. J'habitais à Rouen et on captait la BBC et j'écoutais Wimbledon toute l'après-midi,
alors
intégralement.
Ça, c'est du tennis.
Et ça, c'est fort. C'est-à-dire écouter du tennis toute l'après-midi.
Ça, c'est du vice.
Je sais pas comment je faisais, mais j'écoutais 5-6 heures de suite. Je me rappelle Borg-Guirulaitis, je peux vous le raconter, 8-6 au 5e set en demi-finale en 77. Je me rappelle très bien parce que j'ai dû écouter de ce match-là pendant 5 heures à peu près. C'est une autre génération.
Étienne.
Moi, le match de...
Ça reliait à l'enfance avoir... aussi, vos souvenirs?
Non, c'est... malheureusement, c'était pas de l'enfance, c'était déjà de l'âge adulte. C'était le match retour Bordeaux contre la Juventus, où ils étaient menés deux, ils avaient perdu, donc 3-0 match aller, si je me souviens bien. Et Bordeaux menait 2-0, et j'étais collé à mon transistor, parce que moi, j'étais à Londres à cette époque-là à faire mes études, et j'attendais le dernier but de Bordeaux, qui n'est jamais venu, le récollé au transistor. Elle a fini par beaucoup chauffer cette oreille, mais Bordeaux s'est pas qualifié. Et puis sinon, évidemment, tous les grands commentateurs, bon, les Français, on a entendu tout à l'heure dans
Sacco.
Ah là, dans l'extrait, donc il y avait Eugène Saccomanno. J'avoue qu'il en faisait tellement des tonnes, Eugène, que c'est lui qu'on retenait le plus. Et puis après, quand on est devenu journaliste professionnel, qu'on est venu au stade et qu'on avait les reporters radio à côté, on les écoutait et on se disait, mais ils racontent vraiment n'importe quoi, c'est vrai, parce qu'il se passait rien sur le terrain et ils en faisaient des tonnes à l'antenne.
c'est tout un art.
Il y a un truc avec la radio, enfin, bon, je sais pas
moi,
si.
Moi, j'avais un souvenir, en tout cas, de match de football, et vous allez sourire, parce que ce jour-là, on était en voiture, et c'était le fameux match de Séville, 1982, entre la France et l'Allemagne. On voulait pas s'arrêter au péage, parce que ça faisait tout de suite ombre, et on n'arrivait pas à capter, donc c'était très difficile, évidemment, d'éviter les péages. Et c'était, évidemment, ce match absolument fou, où j'ai jamais vu les images, mais où on nous les racontait si bien, Baptiston, le coup de poing du gardien allemand, et de Schumacher, et tout ce qui avait pu se passé. Alejandro, vous vous souvenez d'un match en particulier?
Ah oui, c'est un souvenir ancien, c'est les Mondiales 66. À l'époque, il n'y avait même pas les satellites pour regarder les matchs en direct à la télé en Argentine, donc j'écoutais à la radio et je me rappelle ces matchs Angleterre-Argentine, d'expulsion de Ratine.
Ce récit
certainement pas très objectif où on pleurait des rages devant ces Anglais qui traitaient ainsi
les Anglais qui avaient
l'Argentine.
Gagné leur seule Coupe du Monde en 1970 à domicile.
Avec la radio, c'était bien avant les Malouines.
Un truc, je sais pas si c'est partagé ou pas, mais en termes d'émotion, comme on ne voit pas, on ne maîtrise pas, et quand on supporte une équipe. Et ben moi, quand par exemple j'entendais que le ballon était dans le camp de l'équipe de mon équipe de cœur, moi ma panique elle est décuplée quoi avec la radio, donc je bouge dans tous les sens, je suis pas bien, enfin voilà, enfin je trouve que c'est quand même c'est fantastique, mais je trouve que c'est un peu plus anxiogène pour les supporters.
Philippe, justement, vous qui êtes un homme, disons, de maintenant, mais vous faites les commentaires à la télé. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'image a tellement pris le pas sur le son. Est-ce que vous sentez une différence, finalement, entre pour l'impact que ça peut avoir entre un commentaire radio et un commentaire télé? Est-ce qu'on retient plus le nom du commentaire? Tout à l'heure, Étienne parlait de Gene Saccomanno. Nous, on se souvient aussi de Jacques Vendroux, bien entendu, et de Gérard Dreyfus. plus hein, à RFI pour certains matchs africains. Est-ce qu'en télé, vous avez l'impression qu'on retient autant les noms des commentateurs?
Je pense que vous avez raison. Il y a une fascination pour le commentateur radio parce qu'il est nos yeux. C'est-à-dire que nous, on ne voit pas. Donc, on imagine avec tout ce qu'il raconte avec attention et touche à 40 mètres. Oui, donc c'est-à-dire que attention, rien du tout, il y avait rien, aucun danger. On l'apprend qu'après.
On s'en épuisé quoi.
Il nous essore, il nous emmène et il nous prend. C'est pour ça que le commentaire est complètement différent techniquement. Marina a dû étudier ça, mais techniquement ça n'a rien à voir.
Mirta,
a étudié ça, c'est complètement différent. Nous, il y en a un qui s'agite un petit peu en télé, mais encore qui commande pas tout, qui s'agite un peu. L'autre est un peu plus dans l'analyse. Alors qu'en radio, ce sont deux commentateurs qui s'agitent tous les deux et qui se relaient en fait, parce qu'il faut imprimer un rythme permanent, parce que sinon on s'ennuie quand il se passe rien.
Mais justement, c'est là ça l'avantage de la radio, c'est que même un mauvais match peut devenir palpitant comme nous l'a raconté.
Tout à fait.
Il y a des gens.
Mais moi, à la radio, j'entends jamais un mauvais match. Ouais. Hein. J'en entends que des commentateurs qui voient des matchs absolument géniaux. Je les envie énormément. Moi, je suis à la télé, j'en vois beaucoup de mauvais.
Il y a des gens qui aujourd'hui regardent leur télé et qui mettent le commentaire de radio. Ça existe.
Alors, ça, je comprends pas.
Des auditeurs. Alors, je suis désolée pour Canal qui souvent retransmet les matchs, mais nous, on a des auditeurs qui nous racontent qu'en Afrique, ils ont les images retransmises par je ne sais quel groupe télé et qui, par ailleurs, par exemple, peut-être demain, mettre un commentaire par-dessus et mettre un commentaire de RFI parce qu'ils ont l'habitude.
Non, mais
ce qu'il y a de terrible, c'est qu'il y a le décalage, que le signal radio va plus vite que le signal télé. Donc, quand il y a un pénalty, ils savent avant qu'il ne soit marqué ou quand il y a un but, avant qu'il ne soit marqué. Mirta, il y a une chose qu'on remarque quand même, peut-être vous l'avez sûrement remarqué, c'est qu'il n'y a pas de femmes aux commentaires radio.
Oui.
En France.
Est-ce qu'il y en a en télé?
Il n'y a pas beaucoup de femmes aux commentaires télé non plus.
Oui, en télé, je peux vous en citer.
Il y en a, mais c'est différent. En télé, on joue malheureusement trop sur l'image de la femme. La caméra va focaliser sur son corps et sa beauté.
Sa jeunesse.
Sa jeunesse, oui, absolument. Ouais. Elle est moins de 30 ans en général. Et, tandis qu'à la radio, c'est la voix. Et on dirait qu'en quelque sorte, dans l'imaginaire collectif, si c'est une voix de femme, si c'est une femme qui fait un commentaire sportif, on dirait que le commentaire, entre guillemets, c'est de moins qualité. Et c'est ça un des tabous ou un des clichés qu'il faut rompre. Et RFI, en fait, est en train de faire histoire avec
vous.
Non,
mais moi, je ne fais pas de commentaires.
Je ne m'y risque pas.
Je pense qu'Annie parlait surtout des commentaires des matchs en direct. C'est ça qui est très technique et parfois beaucoup plus fermé qu'on ne le pense.
En général, il y a très peu de commentaires sportifs des femmes. En général, pour tous les sports, c'est
sauf
à peu près 12%.
Oui, mais c'est aussi les interviews sorties de terrain, c'est-à-dire on pose une question, oui, mais effectivement, on n'est pas dans l'analyse.
Ben moi, je l'ai fait, enfin, je peux témoigner de mon expérience, puisque je travaille aussi sur la chaîne Équipe, comme mon ami, enfin, si je peux me permettre, Étienne Moiti, et j'ai commenté des matchs avec une femme, je la vois comme une journaliste.
À la radio.
À la télévision. Elle a commenté des matchs.
Mais comment sans avoir l'image, sans avoir le droit à l'image, donc c'est aussi un exercice.
C'est une forme de radio commentée.
Mais il n'y a pas eu un match en Espagne où il y avait une commentatrice de football qui était derrière les buts et l'équipe d'Espagne avait raté les buts et on a dit que c'était la faute de la femme de la
journaliste
parce qu'il avait distrait les joueurs.
Nous, on ne fait pas partie de cette catégorie. les femmes,
on est un peu frustre, mais pas rustre. Il y a des limites.
Alors, ouais, moment, les commentaires.
Mettre mes débuts contre mon camp. Hein.
Les commentaires. Évidemment, au départ, avant la télé, il y a eu la radio. Et dans les années 30, en France, il y avait un personnage qui s'appelait Georges Briquet, qui a duré dans les années 50, qui est aussi passé à la télé. Mais écoutons-le. Alors là, on a retrouvé malheureusement qu'un reportage télé, mais c'est le 12 mai 1944. Hein, et c'est un match de finale de Coupe de France entre Nancy-Lorraine et Reims-Champagne. Écoutez.
Dégagement de Carrara. Coulon détourne de justesse et Lorrain en tue chaud. Mais Parmediani reprend une passe de Poblom et c'est le premier but pour la Lorraine. 66e minute, centre de Césia qui trompe tout le monde, Jacques reprend et marque. Dambach et le ballon sont allés au pack direct pour la troisième fois.
Alors, il parle d'aller aux pâquerettes, Étienne Moati. Le langage est peut-être plus châtié, était peut-être plus châtié, plus poétique, je ne sais pas.
Oui, celui-là, mais pas tous non plus. Mais les grands commentateurs de télévision, ça a tous été des grands commentateurs de radio. En tout cas, en France, qui est le marché que je connais le mieux.
Ils passent de l'un à l'autre.
Thierry Roland, il a fait la radio avant de faire la télé. Roger Coudert, Robert Chapat sont tous des gens qui ont fait de la radio
avant
de la télé, et Thierry Gilardi aussi. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment la radio qui symbolise le commentaire de sport. Et si on devait résumer peut-être même un petit peu le journalisme de foot, il est vraiment associé dans l'esprit même du grand public à la radio. Si on parle des journalistes, par exemple, du sport argentin, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir un commentaire, une expression d'un journaliste radio, parce que c'est ça qui finit même par symboliser l'ensemble du football.
Oui, qui peut faire école d'ailleurs. En tout cas, un auditeur de Kinshasa a laissé un message tout à l'heure sur la page de l'émission, Jerry Ronald Silutoni, qui dit « Suivre un match de foot à la radio, c'est une gym des neurones. On crée des images dans sa tête, même la forme du stade qu'on n'a jamais vu parfois vient donc dans notre tête. L'émotion est intense, y compris la concentration. Bref, un moment magique. » Donc c'est vrai que la radio, on n'a pas l'image, mais ça, on apporte des images finalement. C'est tout la difficulté.
On est plus des compteurs que des commentateurs.
Presque. Alors on vous a préparé un petit quiz, un petit questionnaire de son justement, parce que ces voix comme ça, historiques qu'on peut avoir dans l'oreille, on va voir si vous êtes fort. La première que nous propose Guillaume Ploquin.
Petit qui va marquer le troisième but.
Sacco,
ouais,
Sacco. Voilà, tu fais deuxième, là, je te signale.
Hein. Ouais, j'ai perdu. En même temps, il a dit petit, il n'a pas dit Mamadou Sacco.
Ouais. Emmanuel Petit, troisième but en finale de Coupe du Monde 1998, Eugène Sacco-Mano. Autre illustration.
Steven, dernière minute avec le ballon, peut-être pour Ribéry. Ribéry, le ballon et le but de l'équipe de France. Il est signé.
J'aurais essayé.
Florent Malouda.
C'est ça?
Voilà, pour un moment où l'équipe de France était plus qu'au fond du trou, ce France-Afrique du Sud, troisième match, elle était déjà menée 2-0, elle n'était plus largement plus qualifiée, il y avait eu toute la crise de Nice-Na et tout, et Jean Rességuier, notre confrère d'RMC, qui réussissait à s'enthousiasmer pour le but de Florent Malouda.
C'était notre seul but de cette Coupe du Monde, donc forcément, enthousiasme général.
C'était ça. Autre exemple.
Corner côté droit, pour le Paris Saint-Germain, c'est le troisième de la rencontre.
Louis de Salon.
C'est rentrant la tête,
oui,
de Cavalier.
Oh, ce sont les
Vous êtes trop fort, Étienne Moati.
Pour le Paris Saint-Germain, André Livaria à la tête.
Bruno Salomon, c'était un PSG Rennes l'année dernière. Avec son, lui, il a décidé de dire comme les latino-américains, goal. Il le tient assez bien d'ailleurs. Autre exemple.
Entra Luque, gancho para Kempe, peligro, tiro,
Alors, Alejandro. Non, hein.
Je vais aider Mirta parce que je pense qu'elle est trop jeune pour. C'est la finale de la Coupe du Monde 78 et c'est José María Muñoz qui a été pendant des décennies le grand maître du commentaire radio.
Allez, un dernier exemple.
Chers auditeurs, nous prenons l'antenne au moment où le match se déroule déjà.
Mais ça, c'est Coluche.
Oh, c'est bon. Oh, il est bon, lui.
Loin du panneau d'affichage et que le brouillard ne nous permet pas. Alors là, c'est France Angleterre que nous diffusons aujourd'hui. FC, Laurent, les Anglais sont partis avec la balle. C'est une touche.
Voilà, ça illustre un peu tout ce qu'on disait tout à l'heure.
Oui,
évidemment. C'est une parodie, voire une critique. Demain, Alejandro Valente, justement, RFI diffusera un match sur.
Absolument, c'est Real Madrid Paris Saint-Germain.
Au commentaire, il y aura Eric Mamrut qui est en direct avec nous. Bonjour Eric Mamrut.
Hola, ¿qué tal?
Hola. Puedes hablar español, hein, vous pouvez, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de latinos.
¿Por qué te vas?
Il y a déjà deux Argentins. Eric, donc, vous faites le troisième. Eric, comment préparez-vous le commentaire du match pour demain soir?
Ben oui, il faut préparer, ça vient pas tout seul. Il faut, je crois que les journalistes de télé... des fiches qu'on leur prépare, nous c'est pas le cas,
Philippe a l'air de dire non.
Un fantasme.
Dans certaines chaînes, peut-être.
C'est la crise à la télévision. Ils n'ont plus les moyens d'avoir des gens pour préparer les fiches.
Donc, Eric, mais, 90 minutes de commentaires, combien ? 24 heures de préparation ?
Disons, ça commence bien avant, parce que, par exemple, pour un match comme celui de demain, Real Paris Saint-Germain, on commence à s'intéresser vraiment de façon accentuée à ces deux équipes, à leur parcours. 2-3 semaines d'avant, on lit tout. On commence à lire vraiment tout sur ces deux équipes et on s'imprègne comme ça du parcours, de l'histoire des deux équipes pour que ça nous nourrisse et que ça devienne très naturel au moment du commentaire. Après, il y a le travail assez classique, des statistiques, le nombre de buts marqués par tel ou tel joueur, les duels précédents entre les deux équipes, les genres de statistiques qu'aiment bien nos auditeurs et qui permettent de resituer un petit peu le face-à-face. Et un peu tout ça. Après, il peut y avoir un travail, si ce sont deux équipes qu'on ne connaît pas très bien, eh bien d'aller voir les photos des joueurs, peut-être, parce qu'il y a des joueurs qu'on ne connaît pas forcément. Alors évidemment, pour un Real Madrid, Paris Saint-Germain, on les connaît tous. Mais quand on commente un Égypte-Soudan à la CAN, c'est moins simple.
Bon, alors demain soir, ça devrait être plus simple. Vous serez aidé par Pierre Chaperon qui sera à vos côtés et on vous écoutera religieusement. Merci beaucoup, Eric Mamrut, d'être intervenu de Madrid. Myrta, Lorenzo, ça correspondait à ce que vous imaginiez du commentaire football ?
Oui, en fait, fantastique, merci.
Ouais. C'est vrai. Bon, en tout cas, vous étiez aujourd'hui autour de la table et vous voyez que quand vous nous écouterez, vous nous imaginerez, ça sera à l'envers.
Oui, et laissez-moi inviter les auditeurs à se connecter sur Journée mondiale de la radio pour voir différents clips.
Exactement, sur le site de l'UNESCO. Et on a mis des liens aussi sur la page de Radio Foot. On a aussi mis l'article écrit par Christophe Carmarance la semaine dernière qui a enquêté sur les coulisses de Radio Foot International. Il y a des photos, il y a des explications sur toute la genèse de cette émission. Merci à tous et rendez-vous à demain.